Bonjour à toutes et à tous. J'ai réussi à traverser Bordeaux sous la pluie. Et vous aussi, sauf que moi, je ne suis pas bordelaise. Alors voilà, c'est une très, très belle ville. Merci à tous d'être là. Donc j'ai grand plaisir à présenter cette table ronde avec nos trois invités. Donc moi, je suis journaliste, pas spécialiste de la médecine, mais je pense que c'est plutôt pas mal, en fait, parce que ça me permet de poser des questions que vous vous posez peut-être aussi. Le thème d'aujourd'hui, donc, c'est le vertige des médecines alternatives, loin de là. Voilà, on a un engouement évident pour ce type de médecine. Je vais présenter nos invités, mais je leur demanderai peut-être à chacun, en deux mots, de définir, c'est pas évident, ce qu'ils mettent, chacun d'entre eux, dans le terme médecine alternative, médecine parallèle, en tout cas telle que, ce qui pose évidemment la question, à mon avis, de la vérité scientifique, en partie. C'est une des questions que l'on peut se poser, c'est pas la seule. Donc, je vous présente à ma droite Maëlle Lemoine. Vous êtes philosophe de la médecine et de la biologie, c'est bien ça, et vous êtes maître de conférence à l'université, professeur, pardon, à l'université de Bordeaux. Et vous avez été aussi à Tours.
Voilà,
c'était avant. D'accord. Très bien. Et donc, je vous laisserai. Vous avez écrit de plusieurs ouvrages, dont Introduction à la philosophie des sciences. Si vous voulez rajouter quelque chose, vous pouvez le dire.
Prenez le micro, peut-être. J'ajoute juste un point. En fait, j'ai enseigné presque toute ma carrière universitaire, à la faculté de médecine.
À la faculté de médecine, d'accord. Ça, c'est important. Très bien. Donc, ensuite, Philippe de Normandie. Qui est au centre. Alors vous êtes praticien hospitalier, vous avez été en tout cas. Vous êtes co-auteur, comment ? Vous êtes toujours.
Je suis chirurgien même.
Non, vous avez plusieurs vies, c'est ce que j'ai vu. Mais bon, donc vous êtes co-auteur notamment d'un livre Médecine complémentaire et alternative pour ou contre, qui est exactement le sujet d'aujourd'hui. Vous avez travaillé sur un rapport sur l'accès aux soins pour les personnes handicapées. Et donc, vous avez aussi une activité de je ne sais pas si on peut dire de recherche, mais en tout cas de préconisation en matière de politique publique.
Oui, parce que ça fait longtemps que je m'intéresse aux personnes vivant avec un handicap. Et donc, pour un certain nombre de raisons, et vu mes engagements, le gouvernement m'a demandé de travailler sur effectivement comment on améliore l'accès à la santé des personnes en situation de handicap, et on en reparlera tout à l'heure, mais il y a un lien également avec les différents travaux que j'ai pu faire sur ces médecines complémentaires. Mais mon métier, c'est d'être chirurgien des personnes handicapées. Je détords des gens très tordus.
D'accord.
Donc, pour résumer.
Ok, merci.
Je travaille beaucoup avec les équipes bordelaises.
D'accord, merci. Et donc enfin, Bernard Bégaud. Enfin, j'aurais dû dire professeur. À chaque fois, je l'ai pas. Voilà, désolé. Chercheur, professeur de pharmacologie à l'université de Bordeaux. Vous avez été doyen de la faculté aussi de médecine de Bordeaux. Alors à chaque fois, vous avez des plusieurs vies, hein, si je puis me permettre, une très longue carrière. Qu'est-ce que vous voudriez ? Comment ? C'est bien rassuré. Voilà. Donc je vais vous laisser chacun peut-être, parce que je pense que c'est important de préciser le débat. Moi, on a plusieurs façons de définir ce dont il s'agit. Quand on parle de termes alternatifs ou parallèles, même d'ailleurs de médecine, parce que je pense que certaines, ce qu'on appelle thérapies par exemple psychocorporelles ou certaines approches manuelles, etc., ne se revendiquent pas du terme de médecine. Voilà, donc il y a vraiment énormément de types, je pense, de médecines différentes. D'ailleurs, est-ce qu'on peut les appeler médecines ? Si on dit parallèle, ou voilà. Je vous laisse répondre en premier, peut-être, Maëlle Lemoine, si vous êtes d'accord. Merci. D'accord.
Alors, pour moi, la première chose qui me frappe, c'est qu'on a, une définition qui est binaire. C'est-à-dire, d'un côté, on a la médecine, et de l'autre côté, on a, on va dire, les pratiques alternatives ou les médecines alternatives, selon ce que vous voulez, le titre que vous voulez leur donner. Et en fait, il y a deux choses à dire pour moi. La première, c'est que les pratiques alternatives sont définies par opposition à la médecine. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Et la deuxième chose qui est importante, c'est qu'on met ensemble dans ce groupe des tas de choses qui peuvent n'avoir rien à voir les unes avec les autres. Donc on ne peut pas vraiment donner de définition de ces pratiques alternatives, sinon le fait que ce n'est pas la médecine officielle ou la médecine tout court, selon la position que vous voulez prendre.
C'est-à-dire reconnue.
Voilà, alors c'est aussi difficile à faire, mais c'est peut-être une deuxième question.
C'est une deuxième question, alors voilà, merci.
D'abord, première remarque, je pense qu'il faut parler de complémentarité, pas uniquement d'alternatif. Parce que quand on est alternatif, on est toujours tout de suite dans l'opposition, alors que je pense qu'il y a un vrai raisonnement sur la complémentarité, qui peut, dans certains cas, peut aller même dans une alternativité, parce qu'au lieu de prendre des antalgiques forts, vous allez faire de la sophrologie. Donc, je pense qu'il faut réfléchir dans une complémentarité. Et je pense que le problème qui fausse le débat depuis toujours, c'est qu'on est dans des oppositions frontales, pures et dures, comme s'il y avait un truc bien, quelque chose de mauvais. Non, il y a à réfléchir de façon beaucoup plus holistique et beaucoup plus globale. Le titre, c'est une vraie difficulté. Du moins, quand on regarde la littérature internationale, il faut savoir que la France, on est un peu arriéré sur le sujet par rapport à beaucoup de pays qui ont beaucoup plus travaillé sur ce sujet. On voit bien que la définition, on a du mal à la stabiliser aujourd'hui, quels que soient les pays. Si ce n'est qu'on voit apparaître quand même régulièrement cette idée de complémentarité, et on voit apparaître le mot, alors est-ce que soit de médecine, soit de thérapie, ou d'activité. Mais on voit bien qu'on est bien dans un champ de domaine d'activité. Et pourquoi on les appelait médicales? Parce qu'elles s'intéressent, entre guillemets, à la gestion, éventuellement, de façon complémentaire, la prise en charge d'un certain nombre de symptômes. Mais c'est vrai que la définition, même internationale, a du mal de stabiliser. Aux États-Unis, on parle quand même beaucoup de médecine complémentaire. Donc, on voit bien que c'est une tendance qui est en train d'apparaître. Mais je voudrais, parce que vous avez parlé beaucoup d'alternatives, je voudrais tomber qu'on passe bien le débat dans un débat plus élargi que l'alternative.
J'ai simplement répondu au sujet tel qu'il a été présenté, parce qu'en effet, je pense qu'il y a une imprécision, parce que je pense que c'est effectivement très difficile de les définir et qu'on ne les définit pas de la même façon dans les différents pays, comme vous venez de le souligner. Et quand vous dites arriéré, je voudrais juste vous poser une petite question. Ça sous-entend que tout le monde suive à peu près le même mouvement. Est-ce le cas entre les différents pays? C'est-à-dire que progressivement, on intègre des complémentarités dans la médecine telle qu'on l'a pratiquée en Occident, en tout cas, puisque évidemment il y a aussi la médecine chinoise sur laquelle on reviendra peut-être, et des pratiques comme l'acupuncture. Est-ce que vous pouvez préciser quand vous dites arriéré?
Arriéré, c'est que. Mais je faisais une conférence il n'y a pas très longtemps avec un Américain qui s'appelle Spiegel, qui est un monsieur qui a beaucoup travaillé. Effectivement, on lui demandait, nous, à la France, comment vous nous trouvez? Et il nous prend pour étant tout début. Au niveau de l'Europe, il y a un certain nombre de réflexions qui ont été faites au niveau du Conseil de l'Europe, il y a des réflexions au niveau de l'OMS. On ne peut pas dire que la France était avancée pour des raisons, on y reviendra. Ouais. Très d'opposition, de sociologie, de mauvais positionnement. Donc on n'est pas, on est au début. Enfin, et je pense qu'il y a un espèce de paradoxe énorme. J'aide également une mutuelle. On a fait récemment un très gros sondage avec Odoxa. En fait, le paradoxe qui est, c'est que en France, on n'en parle pas, alors que dans la vraie vie, vous avez 2 Français sur 3 qui utilisent des médecines complémentaires. Et quand vous demandez aux professionnels de santé, est-ce que vous utilisez des activités complémentaires? En gros, on est dans les mêmes chiffres. C'est-à-dire qu'on est dans un truc du non-dit au jour d'aujourd'hui. Et quand on en parle publiquement, on en parle plutôt dans une logique d'opposition que dans une logique de réflexion collective, de questionnement, de construction, répondant à des besoins. Alors ensuite, on peut revenir sur la logique des besoins, comment on évalue. Je pense qu'il faut tout de suite. Enfin, je pense que si on veut pas s'enfermer dans le débat, il faut lui donner cette dimension-là. Et je pense qu'en France, on est en train d'ouvrir le couvercle d'un sujet qui, dans la vraie vie et dans l'usage, existe. Et le drame, c'est qu'on n'a pas ouvert le couvercle, qu'on n'a pas voulu collectivement en parler. Je prends un exemple. Moi, je trouve hallucinant qu'un patient, là, je prends les logiques du patient, n'ose pas en parler avec son médecin parce qu'il a peur de se faire engueuler, et qu'un médecin, spontanément, ne demande pas au patient, quand il donne un traitement, est-ce que vous prenez d'autres choses? Parce qu'on pourrait penser qu'il y a des interactions. Ça fait partie d'un domaine du non-dit. D'accord. Ce qui est un peu dommage. C'est pour ça qu'on a écrit un bouquin en disant « Acceptons de mettre le sujet sur la table ».
Merci, moi c'est effectivement très, très, très précieux comme mise au point. Donc Bernard Bégaud, comment est-ce que vous positionnez
Je suis totalement d'accord avec ce qui vient d'être dit, donc je n'ai rien à ajouter. Hein, donc je crois qu'il faut parler de thérapeutique complémentaire alternative. La frontière, alors bon, moi je suis réactionnaire et doyen et président d'université ex. Donc moi, je vais le définir très clairement. Effectivement, les réactionnaires disent les médecines alternatives ou complémentaires, c'est ce que nous n'enseignons pas. Donc, ouais, c'est ça, il y a un dogme médical, etc. Mais une fois qu'on a dit ça, ça ne tient pas 2 minutes la route, comme vous l'avez dit, hein, parce que la frontière est terriblement floue. Hein. D'abord, la médecine, on peut utiliser le terme de médecine, hein, la médecine n'appartient pas aux médecins. Ça, c'est en tant que médecin que je le dis. Donc, il y a plein de façons de se soigner, et heureusement, bon, qui ne sont pas conventionnelles au sens facultaire. Deuxièmement, vous avez plein de pratiques. Alors, vous l'avez dit, mais pour l'homéopathie, par exemple, bon, où il y a eu un débat d'une violence inouïe, combien de médecins normaux, j'allais dire, utilisent quand même de temps en temps l'homéopathie? Beaucoup. C'est dans l'étude qu'on a faite, je ne sais pas, c'est de la moitié, enfin à peu près. Donc, vous voyez, c'est si un chirurgien comme vous qui redresse les gens tordus, vous êtes dans l'axe normal. Mais si vous dites, je n'opère que les jours de pleine lune, où est-ce qu'il est? Est-ce qu'il est alternatif, obscurantiste, ou il est toujours chirurgien?
Ou aux champignons.
Oui, oui, voilà. Ou aux champignons, voilà. Mais vous voyez ce que je veux dire? C'est j'ai vraiment, je crois qu'il faut être modeste. Il faut regarder les objectifs, il faut regarder les moyens qu'on a pour y arriver, et il faut être tout sauf dogmatique. Voilà, pour ça, je pense que... Alors après, on parlera effectivement des conséquences de ceci, mais vous parlez de la médecine. La médecine occidentale, elle est fondée sur la notion, effectivement, de preuve. Le médicament est fondé sur la notion chimique. Hein. Enfin, je suis pharmacologue, donc j'enseigne ça aux étudiants, à la relation dose-effet, le ceci, le cela. Mais vous allez, par exemple, sans chercher l'acupuncture chez les Chinois, vous avez toute la médecine hippocratique dans toute l'Asie, où c'est fondé sur les humeurs et ceci. Et une, bah, des fois, là, bah, nous, on condamne ça. On va dire, c'est scandaleux, c'est une honte. Une fois, j'étais dans un congrès à Urumqi, là où il y a des personnes persécutées. Là. On n'a pas le droit de dire le nom, vous voyez, les Ouïghours, pour ne pas avoir nommé, voilà. J'assiste à un congrès de médecine hippocratique, mais j'ai été stupéfait, parce qu'il y avait un type avec un bonnet sur la tête, une robe, une grande barbe, tout ce que je pouvais me faire peur, qui explique le saouda, qui est en gros le niveau de l'humeur, je sais pas quoi, la bile noire, enfin bon, ce qui était Hippocrate. Ouais. Et il décrit les symptômes qui vont avec ça, mais ça correspondait complètement à nos notions à nous de biologie moléculaire, vous voyez. Donc, vous voyez, c'est, il faut rester modeste. Voilà, voilà. Enfin, bon, il y a trop de dogmatisme là-dessus.
Merci beaucoup. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose par rapport à...
Sur cette question
oui,
de...
Oui, de perception, en fait. De perception, d'acceptation.
Bon, alors, la chose, moi, sur laquelle j'aurais un petit problème, c'est, encore une fois, je l'ai dit, c'est le fait de parler de ces pratiques complémentaires et alternatives dans leur ensemble et dans leur globalité. Parce que je pense que ça recouvre beaucoup de choses. Si j'étais malhonnête et si je voulais me faire beaucoup d'argent, j'inventerais une théorie en m'appuyant plus ou moins sur l'histoire ou de la culture ou quelque chose, une culture un petit peu lointaine qui est un petit peu en vogue dans la population. Et puis je m'installerais, je poserais ma plaque et je dirais je suis un de ces médecins ou de ces praticiens alternatifs et complémentaires. Et j'aurais droit au titre alternatif et complémentaire, puisque je suis alternatif et complémentaire. Et on me mettrait à côté d'autres spécialités qui seraient, ou d'autres courants. Je sais pas, par exemple, si on met l'ostéopathie dans le sac des médecines alternatives et complémentaires, par exemple, ce que certains font, on me mettrait au même titre que l'ostéopathe, ce qui ne serait pas du tout justifié. Donc je pense qu'il faut faire très attention à ça. Le flou de cette étiquette, le fait qu'on n'ait pas de critères, et je pense que tout le monde sera d'accord sur une chose, c'est qu'on ne veut pas se faire avoir ou se faire manipuler par quelqu'un qui serait malhonnête comme ça, et on veut que toutes les pratiques qui sont alternatives et complémentaires soient rigoureusement testées, évaluées, etc., de la même manière que la médecine doit l'être, que la médecine officielle doit l'être. Parce que ces questions se posent aussi pour la médecine. On peut avoir des pratiques alternatives et complémentaires qui peuvent être dangereuses, et on a aussi des pratiques médicales qui peuvent être dangereuses. Ça ne fait pas de ceux qui y recourent forcément des charlatans ou des gens malhonnêtes. Ça peut être des gens qui simplement n'ont pas encore constaté que c'était dangereux, donc ça peut prendre un petit peu de temps. Mais c'est ça que je veux dire, c'est que il ne faut pas simplement, du simple fait que je me réclame d'être une médecine alternative et complémentaire, qu'on dise c'est très bien, vous travaillez pour le bien des gens. Non, pas forcément. De même que c'est pas parce que je fais de la médecine que nécessairement ce que je fais va être bon pour le patient. Ça doit être soumis à un contrôle, à une évaluation, etc. Et une des questions qui me paraît fondamentale, c'est qui doit faire ça et comment.
La question que j'allais poser.
Voilà. Oui. Qui doit faire ça et comment.
Et d'ailleurs, est-ce fait? Vous parlez de l'ostéopathie.
Bien sûr, c'est fait. Oui.
Ça n'a pas toujours été reconnu. l'ostéopathie, voilà, pendant assez longtemps, ça n'était pas reconnu officiellement, me semble-t-il.
Mais avant de revenir sur ces critères d'évaluation de formation, je pense qu'il faut, ce qui est intéressant également, c'est de se dire comment ce phénomène qui se passe doit interroger notre médecine très allopathique, très d'organes. Je trouve que c'est une des raisons pour lesquelles moi je me suis engagé avec mes deux co-acolytes, un sociologue, une professeure de psychologie, pour essayer de réfléchir sur le sujet. En quoi ça nous interroge ? Un des éléments, il y a deux éléments qui m'interrogent et qui interrogent ma médecine, celle que je fais. Je suis plutôt référent dans mon domaine, largement au niveau national. C'est, premièrement, ça interroge sur notre capacité que l'on a d'écouter, de comprendre et de faire en sorte que l'on donne une vraie place au patient dans son processus de décision. La psychologue, Véronique Souza, qui a œuvré sur notre ouvrage, elle a étudié pourquoi un tiers des personnes en rechute de cancer à l'Institut Curie vont vers les médecines complémentaires. La raison number one, c'est on a pris une décision sans que je participe à la décision. Et on m'a dit, voilà votre traitement. Et on peut imaginer, je prends un exemple très concret, parce qu'il faut, c'est qu'effectivement, vous avez un certain âge, vous avez un cancer colique qui récidive, on vous dit, ben voilà, on a fait une RCP, c'est une réunion entre professionnels dans notre coin, sans vous. Nous, on pense, voilà, le traitement pour vous, c'est aller vous retirer et vous mettre une poche de colostomie. Voilà. Moi, si... Et vous allez gagner quelques mois de vie. Si je suis grand-parent, c'est juste avant l'été, mon souci, c'est d'aller me promener sur la plage avec mes petits-fils, mes petits-enfants. Peut-être que la poche de colostomie, je préfère ne pas l'avoir, perdre quelques années, quelques mois, mais passer un bon été avec mes petits-enfants. C'est-à-dire que ce problème de la construction d'une décision collective, ce sujet nous interroge dans cette dimension-là. Et il faut reconnaître que ceux qui se réclament d'eux ont cette dimension relationnelle qui est mise en avant. Et le deuxième sujet qui rejoint ce premier point, c'est la notion de la croyance. Si on ne croit pas aussi bien le patient que le médecin à ce qu'on va décider ensemble, ça ne marche pas. Et ce n'est pas qu'un effet placebo. Cette logique de la croyance, je l'entendais ce matin à la radio, très tôt, je suis parti de Paris, à 5h30, j'entendais aux informations un journaliste qui disait qu'un tiers des médicaments prescrits n'étaient pas utilisés. Et combien dans la salle, vous avez été chez le docteur, il vous a fait un truc, vous n'y croyez pas, et en plus, il vaut mieux. Vous n'y croyez pas, ou le docteur, en vous le prescrivant, il a fait une telle moue qu'il n'y croyait pas normal, mais il a fait ça pour... Voilà. Donc, le sujet de la croyance est un sujet majeur. C'est un sujet majeur parce qu'il est le sujet de l'adhésion, et il pose une autre question fondamentale, et on est... Mais là, je vais me retourner vers le doyen, et surtout dans vos domaines scientifiques. C'est qu'on est en train de découvrir quelque chose, moi, que je trouve absolument fabuleux, mais qui est du bon sens paysan, c'est qu'il y a un lien entre le cerveau et les organes. Nous avons une médecine allopathique d'organes. On traite des organes. On ne traite pas un ensemble. Ça a été notre erreur.
On n'est pas holistique.
Oui, on n'est pas holistique. Et que cette question nous pose dans notre dimension holistique. Et c'est vrai qu'on le regardait bien. Tous ceux qui font du sport, vous savez très bien que quand vous avez couru, vous vous sentez mieux. On sait très bien que si vous croyez un traitement, votre seuil, la douleur, etc. On a plein d'exemples les uns et les autres dans notre vie quotidienne.
L'effet placebo aussi, ça a déjà été étudié, l'effet placebo.
Probablement, mais c'est le... On a voulu le réduire à un effet placebo, mais probablement que ça va beaucoup plus loin, je vous laisserai la parole. Parce qu'on sait que quand on croit à quelque chose, on a un système endocrinien, dopaminergique, Enfin, il y a un lien évident. Et si les médecines chinoises, les médecines africaines, toutes ces médecines anciennes, ont travaillé sur ces sujets-là au sens que... Donc, il y a des choses nouvelles. Et ce qui m'interroge, je trouve, extrêmement, de façon intéressante, c'est qu'on voit là une voie de perspective, à la fois de notre questionnement, en disant peut-être qu'il faut redonner du sens à notre médecine, dans sa relation, dans la construction d'une décision. Et en même temps, on se dit qu'il y a vraiment des vrais travaux de recherche, parce qu'il se passe des choses probablement un peu plus compliquées qu'on ne le pense, et que ça mérite de fouiner. Et ça fait partie des domaines sur lesquels on a besoin de travailler. Mais on va revenir après ça sur arrêtons le charlatanisme, arrêtons des mecs qui font un week-end et qui ensuite prennent vous piquent 1 000 euros. Parce que ça, il faut qu'on en parle après. Mais je pense que ce sujet de fond, il est majeur, et je pense que ça mériterait beaucoup avoir votre avis sur ce lien cerveau-organe.
Moi aussi.
Non, mais j'ai rien à ajouter. J'applaudis. Non. Bon, c'est sûr qu'on découvre déjà dans la médecine, il faut rester toujours très modeste, hein, de dire qu'il ne faut quand même pas se leurrer sur les condamnations qu'il y a. Il y a beaucoup d'autosuffisance, de courte vue, et d'influence des lobbies et des industriels. Il ne faut pas l'oublier quand même, si la France, dans la condamnation justifiée de certaines pratiques, il y a quand même la main du lobby de l'industrie pharmaceutique. Il ne faut pas l'oublier non plus.
À quel point ?
Non, mais c'est vraiment prégnant. Je veux dire par là, c'est qu'on a une médecine qui est effectivement une médecine d'organes, qui repose sur le fait que seul... Alors, je ne parle pas de la chirurgie, parce que moi, je pense que les gens les plus intelligents sont les chirurgiens. Je suis sérieux. Les gens les plus humanistes et les plus intelligents que j'ai rencontrés, parce que moi, j'ai toujours pris pour des abrutis qui coupent de la viande, en fait...
Au sein des médecins.
Ce sont des gens, souvent, mais bien plus développés et cortiqués que nous. Hein. Bon, ça, s'il ne faut pas l'oublier. Mais on est quand même, pour le reste, sur une médecine très médicament. Enfin, je veux dire que c'est... Je ne dors pas... hypnotique, voyez, au lieu de dire, si vous avez 70 ans, c'est normal que votre sommeil se fragmente, je vais pas vous mettre en semi-coma la nuit pour que, voilà. Bon, et ça, c'est la norme, elle est faite aussi par l'industrie, voyez, il faut pas l'oublier quand même. Donc, oui, l'université, mais je sais, j'ai été président d'université, c'est la pensée universelle qui est là-dessus. Bon, je pense qu'il faut être modeste. Et on découvre, je suis extrêmement heureux que vous ayez dit ça, qu'il y a des choses qui nous paraissaient des aberrations qu'aujourd'hui on découvre. Par exemple, on était sur le dogme de la stupidité animale il y a 50 ans. Bon. Maintenant, on s'aperçoit que les corbeaux peuvent construire des sculptures artistiques.
Voyez. Même pour le bébé, il n'y a pas si longtemps.
Bon, on aurait dit, il y a 20 ans, un type ici, il aurait dit que les arbres communiquent par les racines et se passent des messages à 300 mètres. On l'aurait mis à l'asile. Bon, donc il faut quand même se dire, voilà, si mon collègue opère uniquement les jours de pleine lune, peut-être qu'il y a quelque chose, vous voyez, je pense qu'il faut voir ce qui se passe, écouter, ne pas condamner, et pour dire ce que vous dites absolument aussi, évaluer et ne pas permettre aussi des lubies, vous voyez, bon, voilà. Je crois que c'est ça qui a été mélangé atrocement. Vous voyez, quand on vous dit, par exemple, après je me tais, hein, mais pour la protection cardiovasculaire, vous voyez, bon, le risque cardiovasculaire, on vous dit, on va vous prendre un médicament pour le cholestérol. Si vous avez un risque élevé, c'est le médicament le plus utile que vous pouvez prendre. Si vous avez un risque bas, c'est-à-dire que vous n'avez pas plus de 5% de mortalité prédite à 10 ans, par un score très facile à faire, c'est aucun intérêt, aucun. Et même, ça peut vous rendre malade. Mais ça, personne ne le dit. Parfois, quand vous êtes intermédiaire, les Chinois l'ont montré, boire du thé vert a à peu près le même effet. Bon, vous voyez, c'est-à-dire que c'est aussi évaluer, regarder et voilà, et se servir des éléments. Voilà, rester ouvert. Parce que les progrès peuvent venir aussi de choses qui nous paraissent stupides.
Et qu'on prouve, on est rassuré quand il y a une sorte, il me semble, une sorte de preuve scientifique qui valide, comme vous disiez, des choses qui paraissaient complètement aberrantes 20 ans auparavant. Juste avant de vous passer la parole, parce que c'est une interrogation que j'ai sur le pourquoi on semble-t-on découvrir ça maintenant, alors qu'il y a des médecines en effet très anciennes, très différentes de notre médecine classique, en France notamment. Il semblerait que ce soit parce que les patients, on redécouvre, que ce soit les patients qui finalement, en allant chercher d'autres façons ou en complémentarité de se soigner, qui font émerger cette interrogation finalement au sein de la médecine. Enfin, vous vouliez dire autre chose aussi, mais c'est une interrogation que j'ai.
Il y a plusieurs choses. D'abord, je pense pour personne, le fait qu'une pratique de soins soit ancienne n'est garante du fait qu'elle soit efficace. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont très anciennes, mais pas forcément très efficaces. Il y a des tas de pratiques qui ont été remplacées à un moment donné. Sinon, on utiliserait tous...
Les sangsues, ou c'est... Qu'est-ce que
voilà. C'est ben, non, pas forcément. Les sangsues, ça peut... Oui, non, pas forcément. Mais ça dépend aussi pourquoi on utilise. Parce que, vous voyez, par exemple, typiquement, je prends un autre exemple, c'est la saignée, où là, bon, voilà, il y a peu... J'imagine qu'il doit y avoir encore des gens qui doivent se dire... Voilà, mais bien sûr, mais je veux dire, on ne le fait plus pour l'ensemble des prescriptions qu'on utilisait avant. C'est ça la question, c'est-à-dire prescrire une saignée à quelqu'un qui a une tuberculose ou une pneumonie, j'imagine que ce n'est pas tout à fait ce qui est indiqué. Or, c'est ce qu'on faisait. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a du progrès dans les connaissances et il y a de l'élimination d'un certain nombre de pratiques qu'on avait en se disant, bah non, ça ne marche pas, voire c'est dangereux. Si vous voulez, sinon, ben, on continuerait par exemple à utiliser le médiator, parce que traditionnellement, on utilise le médiator. Donc, dans 3 siècles, on utilisera le médiator parce qu'on a utilisé le médiator depuis 30 ans. Donc, ce n'est pas du tout le bon argument. Donc, on ne peut pas... C'est ça que je veux dire. Donc, ça, c'est le premier point. Après, et donc, du coup, ce qui va faire le tri, c'est cette évaluation. Et donc, vous avez posé la question, qui l'a conduit, cette évaluation? Ensuite, vous avez soulevé la question... une des questions, c'est la question qui est liée, que c'est la question de l'efficacité. C'est-à-dire, est-ce qu'on va avoir un traitement qui est efficace? Et que veut dire efficacité? Et vous l'avez dit, dans cette efficacité, il y a un aspect global qu'on appelle souvent holistique, c'est-à-dire, on veut dire qu'il n'y a pas seulement l'efficacité au niveau de l'organe, au niveau de l'amélioration biologique du sujet ou du patient, mais il y a tout un tas d'autres dimensions qui sont extrêmement importantes. Vous avez donné ces exemples qui sont très frappants. Évidemment, quelqu'un qui a le choix entre une opération qui va être handicapante pour lui dans son projet de vie, dans le temps de vie qui va lui rester, on ne va pas la faire simplement parce qu'elle améliore son état biologique. C'est absurde, ça n'a aucun sens. La question, c'est, a-t-on besoin ou faut-il recourir à quelque chose qu'on va appeler alternatif pour tenir compte de ce genre de projet, ou alors est-ce que ça paraît complètement déplacé qu'un médecin qui ne recourrait pas à ces pratiques alternatives tienne compte de ce genre de choses? Enfin, est-ce que vous attendez pas, est-ce que, moi j'attends de mon médecin qui m'écoute et que je n'ai pas besoin pour autant qu'il me dise on va faire de l'acupuncture pour gérer votre anxiété dans la situation qui est la vôtre. S'il veut me le proposer, si moi je le veux, il n'y a pas de problème. Mais ce que je veux dire, c'est, je pense qu'il y a un problème fondamental qui est celui d'un manque dans la formation des médecins qui est assez clair. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est que parfois, on met ensemble tout un tas de pratiques dont certaines sont irrationnelles et dont certaines sont dangereuses, comme sous la même étiquette, en disant c'est la seule façon de traiter humainement les gens. Juste, moi, je suis choqué par ça.
Juste, est-ce que vous pouvez juste préciser en quelques mots comment vous déterminez ce qui est choquant et complètement absurde et ce qui est éventuellement complémentaire? Très rapidement, savoir de quoi on parle.
Je reviens simplement sur cet exemple. Je veux pas être polémique et donner des exemples de pratiques qui sont... Pour que tout le monde voit de quoi je parle, je dirais d'abord, on reprend l'exemple de la saignée, si vous voulez, où là je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui veuille défendre la saignée, encore une fois dans les indications anciennes qui ont été celles de la saignée. C'est pour ça que je prends cet exemple, parce qu'il va être consensuel. Tout le monde est d'accord, il faut éliminer cette pratique. On ne va pas continuer à saigner les gens quand ils ont une pneumonie. Mais on va l'utiliser dans d'autres cas. Mais...
Il faut ne plus la pratiquer dans certaines situations.
C'est ce que je viens de dire, on est d'accord.
Mais non, tu dis il faut éliminer. Non, je dis, il faut
Non, mais dans ce qui serait du... Est-ce que vous pouvez nommer quelques pratiques? Je suis désolé, simplement pour qu'on sache exactement de quoi on parle.
Mais je pense que, pour répondre à votre question, il y a quelque chose, à mon avis, qui est simple. C'est que le premier élément, c'est de se dire que toute pratique pour laquelle un praticien vous propose, vous explique que c'est la seule solution pour vous guérir. Donc, vous arrêtez tout le reste. Vous explique que c'est lui qui sait et qu'il faut que vous vous détachiez de tous les autres professionnels et pas le faire en lien avec, et qui vous dit pas, il faut que vous n'hésitez pas à en parler avec votre médecin, votre infirmière, et qui en plus, le troisième point, vous prend plein de sous, cela il faut se barrer, et cela il faut les dénoncer. Je pense qu'il faut se donner des points de repère simples. Ça, c'est pas normal. Voilà. Une fois qu'on s'est dit ça, qui est un corpus de vraiment là qui ressort un nombre important de personnes. Parce que regardez sur Internet, il y a des gens qui vous disent « je vais vous guérir votre cancer parce que la Lune, etc. » Enfin, il y a des méthodes Hammer, etc. Ça, ce sont des méthodes qui sont des méthodes sectaires. Il y a des travaux remarquables de l'ami Vilude, qui est l'organisme français qui a travaillé sur ces sujets. Il y a un rapport d'un député, Monsieur Miss. Il y a des choses... Ça, il faut le dénoncer fortement, exclure ces gens-là. Voilà. Ensuite, il faut se dire, ceux qui... reconnaissent qu'ils sont prêts à travailler avec les autres, qui disent qu'ils n'ont pas la vérité, qu'on est là pour apporter un plus, etc. Et avec cela, il faut qu'on construise c'est quoi le corpus de formation, comment on est capable d'évaluer, etc. Je pense déjà qu'il faut se mettre une barrière claire pour se dire, il y a un moment donné, le bon gré, le mauvais. Je pense que là, il faut accepter de se dire, il faut être un peu chirurgical. Maintenant, il y a, pour ceux qui jouent le jeu, il y a effectivement un nombre de questions avec lesquelles on a besoin de construire un certain nombre de corpus nouveaux. Je pense à tout ce sujet du corpus de l'évaluation, parce qu'on se rend compte que sur quels critères nous allons évaluer, comment on va former. Je pense qu'on va y revenir, mais je voulais préciser vraiment c'est important de savoir de quoi on parle pour pouvoir se mettre dans la bonne case. On est bien, je crois, autour de cette table, en train de se parler de la case, des gens qui ont bien compris qu'ils étaient dans la complémentarité d'une parcours d'une personne, qu'ils essaient d'amener quelque chose en plus. D'accord. Et je voudrais reprendre quand même un exemple très intéressant. Regardez ce qui se passe au niveau de la cancéro, parce que vous disiez, le médecin, il doit dire, moi je suis frappé depuis que j'ai écrit ce bouquin, quand on parle avec les cancérologues, et notamment il y a un cancérologue qui a travaillé qui s'appelle, dans le livre, qui s'appelle Jean-Louis Douisset, qui est à Aix-en-Provence, ils ont créé des plateformes de médecine complémentaire pour les gens de cancer. Et quand vous parlez avec les cancérologues, ils vous disent, nous, on a des traitements, 7 qui peuvent, entre guillemets, guérir ou faire survivre, mais on a des traitements, c'est des bombes. C'est des bombes parce que les gens se retrouvent avec des problèmes cutanés, la radiothérapie, la peau, l'enfer. Vous avez des douleurs de neuropathie, vous perdez le goût, vous perdez. Et regardez quel est l'endroit sur lequel on est en train de faire un bond considérable en avant sur ces complémentarités. C'est autour de la prise en charge, ce qu'on appelle, alors on les appelle là les soins de support. C'est de se dire qu'un patient, qu'un cancer, certes, notre truc, il va être... Voilà, on va être super toxique pour aller traiter son cancer du foie. On va lui donner plein d'effets indésirables. Il y a une vraie place. On ne va pas rajouter des thérapeutiques qui peuvent être... Mais il y a une vraie place là, dans cette complémentarité. Et regardez les plateformes. Il y a maintenant des centres ressources qui sont mis en complémentarité avec les équipes de cancérologie pour justement prendre en charge. Je trouve que la cancérologie est assez intéressante parce qu'elle nous ouvre une voie de la réflexion sur comment on est dans cette complémentarité. Et pour la dernière information sur ce sujet-là, pour la première fois dans le PLFSS, donc le système de financement de la sécurité sociale, de cette année, il y a un amendement qui reconnaît le financement, entre guillemets, d'un panier des soins complémentaires pour les personnes dans leur parcours de prise en charge du cancer.
Donc là, il y a une sorte d'ouverture, mais un, ont-ils été évalués et comment très rapidement? Et deuxièmement, est-ce qu'ils sont reconnus?
Alors, c'est très intéressant parce que l'évaluation dans ce domaine-là, et quand vous en discutez avec les différents, notamment, je reprends la filière cancéro, dans leur plateforme, ils n'ont pas une activité, ils en ont 50. Mais c'est exactement comme chez les vieux. J'étais, en dehors de ma vie chirurgicale, j'étais en même temps le DGA d'un gros groupe de maisons de retraite et de soins de rééducation. J'ai beaucoup travaillé sur ce qu'on appelle les unités, les PASA, les unités spécifiques pour les patients atteints d'Alzheimer. Et j'ai fait beaucoup de travaux de recherche, publiés et tout sur ce sujet. Et en fait, ce qu'on arrive tous à la même conclusion, c'est de dire qu'il n'y a pas forcément... une activité pour tel domaine. Je ne dors pas, ce n'est pas forcément pour certains la sophrologie. Pour un certain, ce sera la sophro, pour quelqu'un d'autre, ce sera l'aromathérapie, pour un mec qui aime courir, ce sera le sport, etc. Et finalement, on arrive, et c'est ça la difficulté de l'évaluation, et tous les acteurs ont tendance à dire que ce qui marche, c'est là où vous croyez, donc ça rentre dans vos valeurs, que l'il y ait de la passion, pardon, s'il n'y a pas de passion, ça ne marche pas, et en plus que ça crée du lien social. Et donc, ce qui est assez compliqué, je trouve, dans ces complémentarités, c'est de dire on n'est pas capable de poser une indication entre guillemets pour améliorer le sommeil, c'est forcément celle-là, parce qu'on ne va pas réagir tous de la même façon. Voilà, la personne qui déteste l'art, peut-être que de faire de l'art-thérapie, entre guillemets, pour lui traiter son stress, ça ne marchera pas. Alors que moi, je suis un passionné de forêt et je serais peut-être content d'aller embrasser les arbres. Et donc, la vision qu'on en a et donc les critères d'évaluation, forcément, percutent complètement nos critères habituels. Parce que, mais vous voyez, ce corpus, donc c'est une somme d'activités, mais qui doivent répondre finalement à un cahier des charges. Et là, c'est plutôt sur la formation, moi je pense qu'il faut réfléchir sur c'est quoi ce corpus qui doit être commun à tout le monde du cahier des charges de la formation. Dois respecter des règles.
Alors il y a quand même un paradoxe intéressant à expliquer, je pense, parce que vous parlez de croyances et vous dites que ça va être quelque chose qui est important, il y a de l'ordre des valeurs, etc. Il y a plusieurs choses qu'il faut distinguer. Il y a les croyances et il y a les attentes, c'est déjà deux choses différentes. C'est-à-dire vous pouvez vous attendre à un effet sans croire forcément que cet effet va survenir. C'est-à-dire si je vous dis, par exemple, tiens, vous savez que le plafond, là, il s'est déjà effondré plusieurs fois, il pourrait s'effondrer sur notre tête. Vous allez me regarder, vous dites, je ne vous crois pas du tout. Mais n'empêche que vous allez quand même vous attendre à ce que ça puisse arriver. C'est-à-dire, a priori, non, je ne pense pas, mais... Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que vous aurez une attente. Donc si je vous dis, par exemple, si vous prenez ça, il se peut très bien que vous ayez un mieux. Vous n'allez pas forcément me croire, mais par contre, vous allez vous attendre à avoir un mieux parce que c'est une chose que je vous ai prédite. Vous voyez ce que je veux dire?
Donc c'est pas la même chose. Je ne dirai jamais à un patient, je ne lui dis jamais, je pense que peut-être.
Mais peu importe,
si je prescris un truc, c'est parce que j'y crois avec lui.
Mais justement, alors c'est ça l'exemple que je voulais vous donner. C'est quand vous dites, et vous avez raison, il y a 2/3 à peu près des médecins généralistes, ça dépend des spécialités, mais des médecins généralistes, 2/3 environ, même un peu plus, qui prescrivent par exemple de l'homéopathie. Or, si vous demandez aux médecins généralistes par ailleurs s'ils pensent que l'homéopathie peut avoir une quelconque efficacité, quelle que soit la nature de l'efficacité dont on parle, ils sont plus que moins d'un tiers. Donc ça veut dire qu'il y a au moins la moitié des médecins qui prescrivent de l'homéopathie qui ne croient pas à l'homéopathie. Donc, pas tous, hein, je dis juste, il y a quelque chose à analyser. Or, ma question, c'est, dans ce cas-là, que font ces gens exactement ? Parce que vous avez dit que la croyance est nécessaire. Moi, je ne crois pas que la croyance soit nécessaire. Je pense que, et je dis pas que ceux qui n'y croient pas, ce n'est pas bien, ils sont en train de mentir, ils sont hypocrites ou quoi que ce soit. Je vous demande comment vous pensez que ça marche. Est-ce que vous pensez vraiment qu'il faut que les deux croient ?
Est-ce que vous voulez répondre, Bernard Bricot, puis ensuite, je vous... D'abord, voilà. Ah, d'accord.
Juste pour l'homéopathie, je suis toujours d'accord avec vous, parce que je déteste les conflits. Je crois que, en fait, un certain nombre de médecins, parce qu'on a fait une étude là-dessus, utilisent l'homéopathie dans certains symptômes et effectivement ne croient pas à l'homéopathie pour d'autres choses. Moi, si je revenais médecin, je prescrirais sans doute, alors j'y connais rien en homéopathie, mais les gens qui ne dorment pas, vous voyez, je serais plus satisfait de leur donner du Serratia, Ignacia, Phosphorus ou je ne sais pas quoi, plutôt que de leur donner une benzodiazépine qui va leur faire casser la figure et le col du fémur. Si ça marche, vous voyez. Les gens qui ont la diarrhée, je connais des gens qui croient à Podophyllum, 9CH. Bon, ben, écoutez, si ça leur stoppe la diarrhée, voilà. Bon, après, ils ne croient pas, évidemment, si vous avez une hypertension, un diabète, il y a plusieurs degrés. Ce que je voulais dire, mais je vous coupe le débat très intéressant, ce que je voulais dire, c'est que l'attitude, elle est de rester ouvert, voyez. Si on met dans un même sac toutes ces médecines, c'est parce qu'elles sont rejetées par les mandarins comme moi. L'Académie de médecine est un corps assez réactionnaire, il faut bien le dire. Il faut voir ce qu'ils ont écrit sur l'homéopathie, quand même. C'est incroyable. Ils l'ont assimilé à du charlatanisme.
C'est pour ça que c'est des remboursés.
Donc, évidemment, tous les gens se trouvent... les mangeurs de hannetons, les soirs de pleine lune, sont assimilés aux ostéopathes, vous voyez. C'est rejeté en bloc. Je pense qu'il faut rester ouvert. Alors ça, je suis absolument d'accord avec vous. Regardez, évaluez, et heureusement qu'il y a des gens qui font, effectivement, dans le cancer et autres, des choses qui nous paraissaient bizarres, de la sophrologie, de la méditation, du truc. Et on s'aperçoit que, une fois qu'on l'a évalué, ça marche. Et pourquoi pas...
La méditation de pleine conscience, elle est entrée à l'hôpital, me semble.
Oui, absolument. Nous, on la finance à Bergognier. Oui. On la finance. Mais si vous voulez, moi, pour citer une anecdote, une fois, j'ai acheté dans cette librairie un livre d'un certain Rudolf Steiner sur la biodynamie. J'ai lu ce livre et je me suis dit, ce type est fou. C'est incroyable qu'il y ait des gens qui croient à des inepties pareilles. Vous voyez. Alors, il expliquait que pour la biodynamie, il fallait prendre de la crotte de vache, la mettre dans une corne de vache, l'enterrer à 20 cm un soir de pleine lune, la laisser quelques mois, la prendre, diluer, etc., et pulvériser. C'est absurde. Cependant, une fois, je me balade, je vois Château Palmer. Ils sont passés en biodynamie. Des gens, vous voyez, et ça m'a fait douter. Je me suis dit, attends, c'est des gens qui engagent des millions d'euros, là. Et j'ai discuté avec des gens qui font de la biodynamie, me disent... Mais on n'utilise maintenant plus de pesticides. La bouillie bordelaise, on n'en met pratiquement plus. Je me suis dit, ah bon ? La crotte de vache, pleine lune, dans une corne de vache. Mais comment cela se fait-ce ? On ne sait pas tout, vous voyez. Non, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est, moi, en tant que médecin réactionnaire, je me suis dit, mais voilà. Mais il faut rester ouvert. Voilà. Je pense que c'est ça. On est beaucoup trop fermé. Mais il faut évaluer. Voilà.
Est-ce que vous voulez répondre ?
Et chasser les charlatans.
Oui.
Voilà. Mais si une fois qu'on a fait ça, on sera heureux.
Non, mais je pense que ce sujet de la croyance, je le fais en opposition avec l'attente. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut arriver à se dire ce qu'on va faire, on va croire à la capacité de ce que l'on propose d'agir sur le symptôme que j'ai. Ça rejoint les logiques de contrat. Ben, pour moi, croyance égale un peu contrat. Et donc personnalisation, c'est un sujet que vous connaissez par cœur.
Vous pouvez préciser peut-être le lit de contrat.
Non, mais la contrat, mais je m'explique, mais parce que je pourrais le faire dans plein de sujets. Si vous avez, moi, quand j'opère quelqu'un qui a une main tordue, j'essaie d'avoir avec lui de se dire à un moment donné, on est capable de croire au contrat. Le contrat, c'est que je vais vous opérer pour que vous puissiez porter une bague, vous frotter le nez, que votre main ne sente plus mauvais, que vous puissiez tenir un verre, vous puissiez. Je vais dans le micro-détail sur lequel on va ensemble se dire, ben voilà, on va faire ça, c'est un contrat. C'est la personne qui a mal à l'ange, qui a besoin d'une prothèse, on pourrait le faire pour les médicaments, mais je suis orthopédiste, je viens dans mon domaine. C'est si votre sujet, c'est votre passion, c'est faire du yoga, eh bien, ça ne va pas être la même façon de réfléchir que si votre passion allait de monter à cheval ou si c'est faire de l'escalade, parce que je vais peut-être changer mes techniques, etc. Et donc, quand je dis la croyance, c'est qu'à un moment donné, elle, pour moi, elle va avec ce contrat. C'est-à-dire, à un moment donné, on a été capable de se dire, voilà, voilà la difficulté, voilà ce qu'on a envie de traiter, voilà ce qu'on est capable et ce qu'on va être capable de réaliser ensemble. Et c'est pour ça que moi, quand je mets croyance, c'est pour ça que je ne pense pas à l'attente hypothétique. Moi, je pense que le pire, c'est de dire peut-être que ça marchera, il y a une chance de... Si on est dans cette logique-là, et on le sait bien tous, vous, voilà, vous n'êtes pas dans la gagne. Moi, c'est un mot que j'utilise beaucoup, être dans la gagne. Au sens qu'à un moment donné, on s'est dit, voilà, on s'est donné collectivement les moyens. Et je trouve que c'est là où ils sont très forts, entre guillemets, et où on a besoin d'apprendre, comme tu dis très bien, c'est que des personnes, qui, et notamment ceux qui tombent dans le charlatanisme, ils ont cette capacité d'écoute, d'empathie, de compréhension, d'accompagnement, etc., que peut-être on a perdu un peu dans notre système très allopathique. C'est pour ça que je pense qu'il faut qu'on se réinterroge pour avoir une approche beaucoup plus holistique. Et l'approche holistique, elle est, bah, y a un individu, sa spécificité. Et donc, à un moment donné, on va dans cette intimité où on se dit, on va faire des choses ensemble. Et donc, vous avez un cancer, on va le faire. Et puis, on sait que, oui, vous allez avoir une peau qui va vous faire mal. Oui, vous allez perdre le goût. Et bien, pour ça, quelles sont les différentes solutions? Il y en a différentes. Laquelle qui vous paraît celle sur laquelle vous... Voilà, votre corps... Vous réagissez et vous dites, ah oui, moi, j'adore ça. Je suis sûr que ça va me faire du bien parce que vous proposez une gamme de solutions. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien, on est plutôt dans une variété d'activités, mais il va falloir faire de l'évaluation. Ça pose des problèmes. Est-ce qu'on évalue les activités les unes par rapport aux autres ou est-ce qu'on évalue les activités par rapport à son effet sur du ressenti entre guillemets, la personne. Vous voyez bien qu'on bouge la logique de l'évaluation. Or, nous avons une évaluation structurée autour du médicament, des activités, donc très holistique, très sur des critères, sur les chiffres, et on a beaucoup de mal.
Ça ne bouge pas.
Et alors, on rentre dans des critères de qualité de vie, mais là, on rentre dans des critères d'évaluation individuelle. Moi, je suis convaincu que ce truc, ça va me permettre de dormir. Le truc, c'est est-ce que je dors ou pas ? Vous voyez ce que je veux dire, l'intérêt donc on est dans une évaluation qui est très complexe parce qu'elle rentre dans cette intimité et dans cette logique personnalisée. Maintenant, il faut savoir qu'il y a énormément de littérature. Allez sur un site, l'équipe de Montpellier a organisé un site qui recense toutes les publications qu'il y a sur les évaluations de ces médecines complémentaires, alternatives, etc. Il y a quand même beaucoup de choses qui ont été faites. On vient tous sur quand même cette interrogation, comment on va modifier nos modèles d'évaluation? C'est-à-dire qu'on est parti de trucs holistiques, on rentre dans de la qualité de vie. Comment on va rentrer encore plus dans cette logique de la personnalisation d'une évaluation? Ce qui compte, c'est l'individu. Est-ce que ça a marché pour lui? Celui du côté, en gros, je m'en fous. Ce qui compte, c'est moi et c'est par rapport à moi. Est-ce que ça a marché ou pas? Alors, ça peut servir d'exemple pour à côté. Et ça, je trouve que ça nous interroge également dans la façon avec laquelle on a besoin de construire notre relation à la personne et d'évaluer nos pratiques.
Madame Lemoine, vous voulez...
Oui, sur un point qui montre toute la difficulté, parce que on sera tous d'accord aussi, je crois, avec cette idée qu'il faut rester ouvert et humble. Ça, vous y avez insisté beaucoup, et c'est vrai, ce serait même, je pense, anti. Alors, c'est idiot, c'est dogmatique, et c'est anti-scientifique aussi. C'est-à-dire d'être fermé, voilà, bien sûr. C'est-à-dire d'avoir une vision totalement fermée de la science et de ce qu'elle va donner, pouvoir donner, etc. Voilà. Malgré tout, il y a quand même une difficulté. C'est plus difficile qu'il n'y paraît pour une raison assez simple à comprendre. C'est que pour être ouvert, il ne faut pas pour autant en devenir crédule. Et donc, il y a un certain nombre de choses qu'on est obligé d'éliminer. Parce que sinon, vous êtes tout simplement paralysé. Imaginez soudain que, même si on peut se dire toutes les instances d'évaluation sont quand même très, très fermées, elles ne regardent que ce que, par exemple, l'industrie pharmaceutique va leur proposer comme nouveau traitement. Elles veulent pas prendre la peine d'examiner un remède qui a été proposé par quelqu'un d'autre qui est de nature différente, qui serait par exemple ce genre de choses dont vous parlez, que je ne connais pas, la biodynamie, c'est ça ? Voilà. Non, mais mettons qu'il y ait... Mettons qu'il y ait une pratique de ce type ou que quelqu'un dise, voilà, moi, j'ai une médecine ancestrale que je tiens de mon arrière-arrière-arrière-grand-père et puis ça se fait aussi avec de la bouse de vache et mélangée avec je ne sais pas quoi, etc. Et à la pleine lune et tout ça. Bon, on pourrait dire, restons ouverts, on va évaluer. Hein, il n'y a qu'à évaluer, etc. Sauf que si on a... Alors moi, je vous dirais chiche, mais si vous faites ça, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de traitements alternatifs qui vont venir et votre système il va être totalement saturé d'emblée. Donc je pense qu'il faut, d'un côté, il ne faut pas fermer. De l'autre côté, si vous ouvrez à tout, vous allez perdre un temps fou parce que vous allez tester la première lubie qui vient Bah, vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire, voilà. C'est-à-dire qu'en fait, la question, c'est qu'il faut qu'il y ait des filtres. Le problème, c'est que ces filtres-là, il ne faut pas qu'ils soient mal faits, il faut qu'ils soient bien faits. Et c'est, moi, je dis pas, je vous dis pas, c'est bien qu'on filtre. Je vous dis, voilà notre problème. Notre problème, c'est que soit on a une vision très fermée et effectivement, on va éliminer tout un tas de choses qui, de fait, ont très peu de chances de marcher, mais on va aussi éliminer des choses qui ont des chances de marcher. Soit on a un système extrêmement ouvert, et là, vous allez avoir un problème majeur d'évaluation, c'est que vous ne pourrez pas évaluer tout ce qui vient.
Bernard Bégaud, oui.
Je suis d'accord, hein, je suis d'accord. Mais quand même, on est, c'est très difficile la vie en société, parce que il y a, bon, c'est une journée des Gilets jaunes, donc on va, il y a les gens qui nous guident, qu'on a élus ou qui sont fonctionnaires. Il existe en France un ministère de la Santé, il existe des conseillers, il existe une haute autorité, l'HAS de santé, il existe une agence du médicament. C'est leur job. Si vous voulez, il existe théoriquement une académie qui devrait normalement être ouverte à ça. C'est à eux à dire. Il faut jouer à la fois avec ceux qui ont le devoir et le pouvoir et le savoir de le faire, mais ne pas fermer non plus l'ouverture en bas. Parce qu'il y a peut-être des gens qui ont raison quand ils disent ben, « Regardez, moi, si je tourne ça comme ça, ben, j'ai plus mal au ventre. Voilà. » Il est fou, celui-là. Alors après, il y a quelqu'un qui va vous dire, oui, mais ça, c'est normal, parce que là, il regarde comme ça, ça lui fait un reflet dans l'œil, il est connu que dans... Enfin, bon, bref, il y a des gens dont c'est le métier, vous voyez. Il faut rester à la fois ouvert, sans se laisser submerger, mais c'est le travail des gens d'en haut, de la haute autorité de santé, par exemple. C'est son boulot. Et c'est des gens qui sont capables de ne pas se laisser submerger. Ils vont prendre ce qui est le plus important. Si c'est dans le domaine du cancer et qu'effectivement, un certain nombre de pratiques sont associées à une meilleure survie, mais voilà, il évalue, vous voyez. Alors, et après, il faut hiérarchiser. Alors, je suis d'accord avec vous, hein, mais sauf qu'il y a des gens qui peuvent hiérarchiser. On reste ouvert tout en guidant le peuple. Enfin, vous voyez, c'est ce que je veux dire, pour faire du de la croix. Oui, c'est notre rouleau. Et c'est le boulot de la faculté de médecine qui de rester ouvert aussi à ce nombre de pratiques, hein, de pas dire, comme je l'ai entendu, ben, je ne sais pas quoi, en faire des plaisanteries faciles à faire. Vous voyez, l'homéopathie, vous leur donnez le diabète avec le sucre qu'ils mangent. Bon, on leur dit, bon, c'est facile. Et ça ne grandit personne.
C'est fréquent.
Oui. Ouais.
Et je pense sur cette évaluation, il faut l'aborder sur deux aspects. Il faut l'aborder sur l'évaluation de la façon avec laquelle sont exercées. C'est-à-dire que c'est quoi ce process qui fait que quelqu'un qui se dit faire la médecine complémentaire, il respecte quoi ? Il respecte quoi ? C'est un corpus qui devrait être à toutes les activités. Moi, je suis pour qu'il y ait un serment d'Hippocrate, faisons le serment d'Hippomag, des médecines complémentaires. Mais ça veut dire qu'il y a un corpus commun. Le corpus commun, c'est par exemple, je fais en sorte que je suis certain de prévenir tous les autres intervenants de soins dans le système. Ça veut dire que avant de vous donner un traitement, je vais, parce que si vous prenez la neuropathie, si vous prenez des plantes alors que vous prenez par ailleurs un traitement anticancer, vous pouvez créer une bombe. Donc je m'intéresse au traitement. Vous voyez, des critères qui sont des critères d'exercice de la pratique. Ce qui pose la question derrière ça, c'est quoi le corpus de formation qui devrait être identique pour tous les gens qui interviennent une pratique. Parce que la vraie difficulté, c'est effectivement d'avoir une évaluation individuelle, pratique par pratique. Quand vous prenez, on était avec Spiegel, donc le Manitou, vous trouvez ça dans le livre, qui a été un des grands aux États-Unis qui a travaillé sur ces plateformes du cancer. Il vous dit bien, on ne peut pas évaluer telle activité, parce que dans notre centre de cancer, il y a des gens qui auront fait, pour améliorer leur stress, certains du yoga, certains de la sophro, certains d'un chiro, certains. Donc on voit bien que c'est très compliqué de faire une évaluation, on voudrait évaluer activité par activité en les comparant les unes avec les autres. C'est très compliqué, puisqu'ensuite on revient sur le ressenti. Donc je pense qu'il y a un système d'évaluation des modalités d'exercice. Voilà, ça c'est du « je ne le respecte pas », franchement on peut s'interroger. Et puis il y a une deuxième évaluation, qui est l'évaluation finalement de cette efficacité, mais probablement plus dans sa globalité, c'est-à-dire que c'est difficile de dire c'est l'activité de façon isolée. Je pense qu'il est important d'évaluer, c'est les effets négatifs que ça pourrait avoir. C'est-à-dire que donner la possibilité aux uns et aux autres, quand on va sur un site et qu'on se renseigne, on soit certain que s'il y a une évaluation, on nous dise faites gaffe, parce que cette pratique, elle peut être dangereuse pour un certain nombre de raisons. Donc le côté négatif, ça je vois bien le côté risque. Faites gaffe, il y a des risques. Cela, il faut les connaître. Deuxièmement, si vous allez voir un professionnel qui vous dit faire ça, vérifiez son niveau de formation et son niveau de son avant. Est-ce qu'il s'est engagé à ce corpus qui se corpus. Vous voyez, je pense qu'il faut qu'on aborde ça de façon un peu innovante. Sinon, si on veut comparer les activités les unes avec les autres, comme tu l'as dit, on n'y arrivera jamais puisqu'il y en a. Allez, nous, on en a répertorié 450, on dit qu'il y en a 12 000. C'est ingérable. Donc, on voit bien qu'il faut prendre ça sous un angle un peu différent.
Alors, c'est complètement nécessaire, mais ça ne sera jamais suffisant. C'est-à-dire qu'en fait, c'est nécessaire, évidemment, et on s'attend à ce que quand même les pouvoirs publics vérifient que des pratiques dangereuses ne se trouvent pas et que ce soit contrôlé et interdit et que les gens qui les font en connaissance de cause soient condamnés. Ça, tout le monde sera d'accord là-dessus. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on ne peut pas se contenter de l'idée que c'est compliqué d'évaluer ou que c'est difficile parce que c'est individualisé. C'est pas possible de faire ça non plus, parce que en fait, là encore, je reprends encore n'importe quel exemple imaginaire qu'on a pu prendre ici ou même réel. Si moi je décide de mettre ma plaque et que je dis je fais quelque chose qui n'est pas nocif, mais par contre vous allez me payer pour le faire, c'est normal, c'est mon travail, ce sera pas nocif, je vous fais juste ça comme ça, et ou alors je tourne votre bouteille ou je touche vos articulations des doigts, et puis et après vous vous sentez mieux, et les gens me disent je sais pas si je me sens vraiment mieux, mais ils continuent à venir parce que je suis gentil, parce que je suis bien placé, parce que etc. Je suis pas nocif, mais par contre je suis une vraie chose que je suis si je fais ça moi, c'est que je suis un parasite. C'est-à-dire qu'en fait je vous demande de me donner. Alors, si on leur fait du bien et qu'ils se sentent mieux, c'est autre chose. Mais la question... du coup, on revient à cette question d'évaluation. Il faut évaluer ça.
Mais on voit bien que c'est compliqué. Je voudrais juste quand même vous dire, moi, je suis complètement hostile à la personne qui fait un week-end, qui se forme, soi-disant un week-end, et qui, d'un coup, va mettre sa plaque. Quand je dis qu'il y a un corpus, un tronc commun, et je pense qu'il y a un vrai sujet pour l'université, et pour les étudiants, mais en médecine, bien sûr, mais pour tous, c'est-à-dire comment l'université... prend ce dossier à bras-le-corps et dire, moi je pense que peut-être que je me trompe, mais dans une des hypothèses, je dis que toute personne qui fait des pratiques qui se dit amener une complémentarité à la médecine allopathique, elle doit avoir un corpus de formation minimum, clair, quelle que soit son activité, parce qu'il y a un corpus commun, que vous fassiez de la chiro, etc., que vous fassiez de la soufre, etc., il y a un moment donné, forcément un corpus commun de formation. Donc je crois à cette corpus commun de formation, où l'université a une place, puis il y a des formations plus techniques par rapport à un certain nombre d'activités. Il faut qu'on imagine un process de formation reconnu, efficace, rien que pour que les personnes s'y retrouvent. Je travaillais avec la personne qui a Medicine, le site des médecines complémentaires, et elle me disait, mais Philippe, moi je suis vachement emmerdé, parce qu'au jour d'aujourd'hui, sur quel critère je dis qu'un praticien est un bon praticien ou un mauvais praticien? Alors, c'est pas uniquement le blog qui permet de le dire. Il y a un moment donné, il faut se dire, la personne, elle s'engage à quoi? Elle a été formée et faut dire, il y a quand même des choses rationnelles. Là, je reprends mon côté orthopédiste. Moi, j'aime bien les choses claires. Il faut du rationnel, on est bien d'accord. Mais ce rationnel, ça ne sera pas de l'évaluation activité par activité. C'est ce que je veux dire.
Mais quid, par exemple, de ce qui s'intitule dans ce groupe en fait qui se dit relevé de pratiques de bien-être, abordant du bien-être. Voilà, on peut aller du massage ou commence le soin, où s'arrête-t-il quand on est dans le bien-être? On n'est pas forcément dans la médecine. Enfin, un massage ne dit pas qu'il va guérir le cancer. Par contre, il fait du bien éventuellement à la personne s'il revient. Et ça dépend. Enfin, c'est extrêmement complexe. Voilà. Donc il y a.
C'est pour ça que je vous dis, ça rejoint les critiques. Si vous avez un cancer et que vous avez des horribles douleurs parce que vous avez des chimiothérapies qui vous donnent des myalgies ou des arthralgies de chien, et que grâce à certains, parce que le massage, à condition qu'il respecte tout ce que je viens de dire avant, et que le massage, vous avez votre ressenti, et vous dites « putain, je me sens mieux après », et que 15 jours après ou 3 semaines après, je me sens toujours... Eh bien, peut-être que ça, c'est aussi efficace que pour un autre, ça sera d'être dans les mains d'un chiropracteur, et pour un autre, ça sera éventuellement de prendre un médicament. Ouais. Je veux dire que là encore, c'est ce qui compte, c'est à la fin, la personne, putain, ça y est, je suis détendu, j'ai plus de contracture. Je dirais la méthode, si elle respecte un certain nombre de règles, ce qui compte, c'est le résultat pour la personne. Or, là, on rejoint les croyances, etc. etc.
D'accord. Merci. Bernard Bégaud, vous avez le mot de la fin. Ensuite, il y aura une séance de dédicace des ouvrages de nos trois intervenants.
J'étais très heureux de participer à ce très intéressant débat. Et merci beaucoup pour votre...
Merci infiniment à vous tous et surtout à nos trois intervenants.